Regardez voir la photo sur France Inter.
Bonjour, je suis ravie de vous retrouver cet après-midi jusqu'à 15h. C'est notre dernier rendez-vous de l'été car la semaine prochaine, c'est la rentrée sur France Inter. Nous allons conclure Regardez voir en beauté avec un homme qui fut le fondateur et le directeur de la Maison européenne de la photographie à Paris pendant 22 ans. Jean-Luc Monterosso prend sa retraite bien sûr, mais nous allons le revoir très prochainement dans le paysage photographique français puisqu'il sera le commissaire de la rétrospective JR à la MEP. On va passer cette heure ensemble avec des souvenirs, des mots du présent, avec des paroles de femmes photographes et des photographies qui sont dans notre mémoire collective.
Regardez voir, une émission de Brigitte Patient.
Et avant cette rencontre des notes romantiques et rimées dans les nouveautés musicales de France Inter, avec Polo et Pan. Bonjour Jean-Luc Monterosso.
Bonjour Brigitte.
Merci d'être là dans Regardez voir. Vous qui avez passé votre enfance en Tunisie au musée du Bardo avec votre père qui était restaurateur de mosaïques et de fresques, comment êtes-vous entré bien plus tard en contact avec la photographie ?
Alors, tout à fait par hasard, j'étais au centre Georges Pompidou au moment de la construction du centre en 1974 et un ami qui dirigeait les pages culturelles m'a proposé d'écrire sur la photographie. J'avoue que j'étais un peu surpris au départ parce que je ne connaissais rien à la photo. Il faut bien un début à tout. Il m'a dit, ne t'en fais pas, je corrigerai ton papier. Voilà, et j'ai commencé à m'intéresser à la photo à partir de ce moment-là. C'est-à-dire en 1974, vous voyez, ça remonte à loin.
Et en 80, vous créez le mois de la photo.
Et en 80, je crée le mois de la photo avec Rue Chapier, qui a été le directeur des pages culturelles d'un grand quotidien de l'époque, qui s'appelait le Quotidien de Paris. C'était le journal de Philippe Tesson.
Vous étiez bon dans l'écriture de vos papiers pour le Quotidien de Paris ?
Il faut croire, parce qu'on m'a donné une chronique régulière après. Vous avez... L'écriture, c'est toujours très difficile. Hein. J'avais beaucoup de mal, toujours.
La Maison européenne de la photographie à Paris ouvre en 1996. Vous la dirigez depuis cette année-là. Elle compte aujourd'hui 23 000 œuvres. Elle compte 32 000 ouvrages. Et combien de publics ? On ne parle pas du public, mais je voudrais savoir la fréquentation. Comment a-t-elle évolué depuis l'ouverture ?
Depuis l'ouverture, on est passé à peu près de 200 000 visiteurs à 200 000, tout simplement. Et surtout des jeunes, beaucoup de jeunes, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui. Et ça me plaît beaucoup. Je vois beaucoup de jeunes et même des petits-enfants. Et ça, c'est une grande joie pour moi.
Le rôle de la MEP dans le monde de la photographie, le rôle de la Maison européenne, a-t-il changé depuis 1996 ?
Je ne sais pas si le rôle a changé, en tout cas le public a changé. Le public est devenu un public plus cultivé. Le public connaît vraiment maintenant l'histoire de la photographie, ce qui n'était pas le cas quand on a ouvert la MEP. Et je crois que ça, c'est une bonne chose. Et donc, c'est un public qui devient très exigeant.
Et vous, alors, vous me disiez tout à l'heure que vous ne connaissiez pas grand-chose à la photographie. Qui vous a guidé ?
Écoutez, je suis tombé comme ça dans le bain photographique, hein, dans le révélateur. Et je dois dire que Gilles Plazy, qui était à l'époque au Quotidien de Paris, m'a corrigé donc mes papiers. Puis petit à petit, ça a été Henri Chapier. C'était un bon professeur, Henri Chapier. Oui. Il a une belle plume. Oui. Voilà. Et puis après, je me suis débrouillé comme un grand.
Alors, je vous propose une balade aujourd'hui dans la photographie avec quelques femmes que j'ai rencontrées au cours de ces années d'émission sur la photographie, donc, et aussi dans vos salles de la Maison européenne de la photographie à Paris. Par exemple, à l'occasion d'une exposition assortie d'un livre aux éditions Xavier Barral, Face to Face, signé, et là je vous laisse donner le nom de ce photographe chinois.
Signé par un grand photographe chinois qui s'appelle Zhong Weixing.
Et que vous avez choisi d'exposer. Qui est cet homme ?
Écoutez, il est un peu un ovni, comme ça, il est arrivé. C'est pourtant un photographe qui a déjà publié plusieurs livres. Et puis, il avait un beau projet. C'était le projet de faire les portraits des grands photographes. Vous savez, les photographes n'aiment pas être photographiés. Et il a souhaité faire un peu comme Nadar l'avait fait avec les sommités de son temps, faire un peu un panthéon des grands photographes. Et puis, il est parti dans le monde entier pour photographier les plus grands.
Et il a photographié notamment des photographes et des photographes françaises.
Beaucoup de photographes français, j'en suis ravi, parce que ces photographes français vont bientôt, j'espère, exposer dans son musée, parce qu'il est en train de construire un musée pour la photographie.
Dans quelle ville ?
En Chine ? Dans une ville qui compte 14 millions d'habitants, qui s'appelle Chengdu, c'est la ville des pandas.
D'accord, alors je suis dans une des salles de la Maison européenne de la photographie, près de l'artiste Orlan, donc, qui accepte le jeu de la description de son portrait fait par Zhong Weixing.
Il est très difficile à décrire, en fait, parce que j'ai joué, je me suis amusé avec des éléments, des accessoires d'une de mes œuvres qui était ici, qui était exposée, qui s'appelle « Panoplie d'une fille bonne à marier ». Et donc, il y avait un personnage collé sur bois, détouré, grandeur nature, me ressemblant, bien évidemment, et sur lequel on pouvait mettre, par exemple, comme on voit sur cette photo, un soutien-gorge avec des œufs durs dessus. Ce soutien-gorge étant fait en aplat, et en bois découpé. Et aussi, il y avait par exemple cette jupe, où il y a une fausse dentelle, et la jupe est faite en carrelage. En fait, c'était toute une remise en question des femmes et de leur destination de la cuisine et du mariage. Et donc, il a fait beaucoup, beaucoup de photos, en fait. Il y en avait beaucoup qui me plaisaient aussi énormément. Par exemple, celle avec mon crâne, qui est vraiment formidable. Et finalement, au final, j'ai choisi celle-ci parmi celles qu'il avait sélectionnées parce que ça me paraissait la plus inattendue. Je pense que souvent, quand on fait des photos pour des photographes, on a toujours des poses assez classiques, embellissantes, etc. Et là, on se retrouve dans quelque chose qui est déréglant, dérangeant, étonnant, où on me reconnaît qu'à moitié ou pas, mais qui en même temps aussi parle de mon œuvre et de ce que j'ai essayé de dire à travers cela. Donc, je l'aime beaucoup. Et effectivement, elle est très étrange, quoi. Très, 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 très étrange. Pas du tout une pose classique. Je pense que, contrairement à ce qu'on dit que la photo révèle, je pense que la photo ne révèle rien. C'est l'ensemble des photos qui tournent autour, qui tâtonnent autour d'un point, qui d'ailleurs se déplace. Et se déplace dans le temps, dans l'environnement, parce qu'effectivement, dans la vie, on n'a pas qu'un corps, on a des corps. Et que dans le même environnement, quelqu'un qui vous fait une photo peut absolument vous transformer complètement, que vous ne ressembliez absolument pas à ce que vous êtes, ou que vous soyez complètement qu'il est par le photographe. Là, on est dans une situation vraiment très artistique, très créative, et étonnante, étrange, inattendue. J'aime ça.
Orlan, devant son portrait, c'était dans l'exposition Face to Face à la MEP, Jean-Luc Monterosso. Et Orlan est aussi dans le livre La photographie française existe, je l'ai rencontré. C'était une expo au printemps de cette année. Orlan, comment l'avez-vous rencontré, par exemple?
À Orlan, je la connais depuis très longtemps, depuis le baiser de l'artiste, finalement. Je n'ai pas embrassé. C'était...
Racontez-nous.
Oui. Et il fallait mettre une petite pièce et on avait droit à un baiser. Et j'ai trouvé ça formidable. Mais Orlan, vous savez, elle m'a toujours étonné. Orlan, c'est quelqu'un qui vraiment détonne et étonne. Et ce qu'elle dit là avec Zong, c'est très intéressant parce que Zong voulait collaborer avec les photographes. Et elle a accepté tout de suite, bien sûr. Et elle a, c'est donc pratiquement un portrait fait en commun, quoi, et qui traduit bien la créativité d'Orlan. Et je trouve que ça donne un portrait qui est effectivement très, très étonnant.
Et fait-elle partie des femmes que vous avez exposées à la Maison européenne?
Bien sûr, Orlan a eu une très grande exposition. Le commissaire en était Jérôme Neutre, d'ailleurs, qui dirige le Grand Palais. Et ça a été une exposition qui a connu un très grand succès. Vous savez, c'est une des... Pour moi, une des plus grandes artistes aujourd'hui. Orlan, vraiment, c'est quelqu'un qui invente constamment et qui utilise les nouvelles technologies. Par exemple, dans l'exposition qu'on a présentée en printemps dernier, il y avait ces portraits de l'opéra. Elle avait repris les masques de l'opéra de Pékin. D'abord, une première transgression. En général, ces rôles ne sont tenus que par des hommes. Elle était une femme. Et en plus, elle avait utilisé la réalité augmentée. Et donc, avec Augment, on pouvait avoir Orlan qui apparaissait entre la photographie qui était présentée et notre appareil photo. On pouvait même se faire photographier avec Orlan qui dansait. C'était formidable.
Les artistes que vous avez exposés tout au long de votre carrière, Jean-Luc Monterosso, d'une façon ou d'une autre, vous ne pouvez pas les exposer tous les ans. Mais comment les suivez-vous? De quelle façon?
J'essaye de les suivre, mais je les suis en faisant des acquisitions. En proposant à la commission d'achat des acquisitions. C'est ainsi qu'on a suivi Georges Rousse, on a suivi Patrick Tosani, on a suivi Pierre et Gilles, jusqu'à un certain point, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les œuvres coûtent de plus en plus cher, et les crédits pour les acquisitions sont de moins en moins importants, et donc parfois ça s'arrête. Mais effectivement, la photographie, c'est intéressant de montrer le parcours d'un photographe, l'itinéraire d'un photographe, et donc de le suivre.
Quelle est votre toute première acquisition à la tête de la Maison européenne de la photographie?
À la tête de la Maison européenne de la photographie, c'est peut-être les acquisitions de Bettina Reims, parce qu'elle a été la première à exposer à un moment où le bâtiment était encore en jachère. Et elle avait créé ces portraits des Modern Lovers, qui étaient des adolescents, des adolescentes entre deux âges, entre deux sexualités. Le bâtiment lui-même était entre deux destinations et je lui ai proposé, dans ce bâtiment qui était comme ça en déshérence, de montrer ses portraits. Et ça a été un très grand succès, c'était pendant le mois de la photo. Et ça a été la première grande exposition en 1990, c'est-à-dire 6 ans avant l'ouverture de la MEP.
C'était en ruine, non pas en ruine,
c'était
mais
quasiment,
en travaux,
quasiment enfin. En ruine, c'était même pas en travaux, les travaux n'avaient pas commencé.
D'accord.
Et c'était absolument étonnant. Et à ce moment-là, tout le monde était convaincu que c'était le bon endroit. Mm-hmm. Parce que pendant très longtemps, j'ai dû me battre pour convaincre l'administration de la ville que c'était vraiment l'endroit idéal pour la photographie.
À qui appartient ce bâtiment, rue
de Fourcy ? Ce bâtiment appartient à la ville de Paris.
Oui.
Et je tiens à le dire, c'est grâce à la ville de Paris, n'est pas que cette maison existe et peut continuer à exister.
Sylvia Says, Charlotte Gainsbourg rend hommage à la poétesse américaine Sylvia Plath.
Regardez voir la photo sur France Inter.
Bienvenue dans Regardez voir, dernière émission de l'été avec cet après-midi un invité d'honneur, de choix, qui a œuvré pour la photographie pendant de très nombreuses années, puisqu'il a été le fondateur et directeur de la Maison Européenne de la Photographie, rue de Fourcy à Paris, dans le 4e. Quand il y a de nouvelles expositions à la MEP et qu'on passe dans le quartier, il y a toujours de longues files d'attente dans la rue de Fourcy. Jean-Luc Monterosso, le public a-t-il toujours été au rendez-vous ?
Oui, c'est un public formidable pour moi. Il est toujours là parce qu'à la MEP, c'est une maison. Et je crois qu'il se sent un peu chez lui, ce public. On se perd dans la maison européenne. Hein. Il y a des escaliers un peu dans tous les sens. Et donc, les gens se sentent bien. Mmh. Et je crois que ça joue beaucoup, cet aspect maison qui tranche avec les grands Kunsthalle, ces grands musées un peu froids.
Quelles sont tout de même les expositions qui marchent le mieux?
Ah, en général, ce sont les expositions des grands photographes, quand on fait évidemment Robert Franck, quand on fait Sebastião Salgado, quand on fait... Mais parfois, on a d'heureuses surprises. Hein, et on a des photographes qu'on n'attendait pas et qui, d'un seul coup, ont la faveur du public.
Avez-vous pris des risques en montrant, par exemple, certaines photographies pour la première fois de photographes méconnus, mais que vous teniez absolument à exposer pour le grand public ?
Oui, j'ai pris des risques au début de l'ouverture de la maison avec Pierre et Gilles, par exemple. On a fêté leurs 20 ans. Et là, j'ai eu un problème de censure. À l'époque, ils n'étaient pas très connus. Ils étaient reconnus par un certain Epifiou, mais ils n'étaient pas rentrés encore auprès du grand public. Et je dois dire que ça a été un peu difficile. Mais enfin, on s'en est sorti.
Certaines photos ont été censurées ou toute l'expo ?
Les photos n'ont pas été censurées, mais il a fallu se battre pour les maintenir.
Oui, voilà. C'est cela.
Et, mais c'était une autre époque, hein. C'était en 1996. Donc, voilà.
On est parvenu aujourd'hui à une certaine forme de censure. C'est vrai.
Alors aujourd'hui, il y a deux choses qu'on ne peut pas montrer. On ne peut pas se moquer de la religion, des religions. Et on ne peut pas montrer les enfants, la nudité des enfants. Voilà.
Il y a des photos qu'on ne pourrait plus voir.
Il y a des photos qu'on ne pourrait plus voir.
On va poursuivre la balade dans les salles de la MEP au moment de l'exposition de Monsieur Zong. Je vais l'appeler Monsieur Zong, même si on dit Chong. C'était donc ces photographies de grands photographes. Et là, je suis avec Christine Spengler, qui est face à son portrait. Et je lui demande tout simplement, écoutez, de nous en parler.
Alors, chère Brigitte, le portrait, je viens de le découvrir, plongé dans le noir. Les salles de la MEP où expose M. Zong sont absolument, les photos ressortent, mais très peu, dans le noir absolu. Alors, il faut que je vous dise la vérité, ça n'a rien de vexant de dire que comme beaucoup d'entre nous, je ne me suis pas reconnue, parce que chacun de nous se voit différemment. Or, je suis quelqu'un qui... suis quand même, en général, plutôt souriante. Et comme dans la guerre, je me suis habillée pendant tant d'années en tchador noir, en voile, en burqa. Maintenant que je suis un peu sortie de l'enfer, j'ai opté pour les couleurs vives. Donc, depuis quelques années, je m'habille en rouge, comme aujourd'hui, toutes ces couleurs flamboyantes que j'ai découvert dans les tableaux du musée du Prado de mon enfance à Madrid. Toutes ces couleurs éclatantes que j'avais oblitérées pendant tant d'années de deuil et de douleur. Alors maintenant que, depuis quand même au moins 10 ans, je m'habille justement en couleurs, alors moi je ne me reconnais pas parce que ce sont des tons très sombre, plutôt à la Velázquez ou Zurbarán, qui me représente pas du tout. Mais d'un autre côté, cette gravité qu'il a su capter en moi, qui est très difficile puisque j'ai tendance, un peu comme les Asiatiques, à masquer ma douleur en souriant, eh bien, elle est sûrement bien vue lorsqu'on sait que mon métier a été d'être correspondante de guerre et de voir la tragédie. Donc c'est très bien.
Christine Spengler, dans les salles de votre maison, Jean-Luc Monterosso. En écoutant sa voix, ses mots, sa façon de parler, vous reconnaissez tout le personnage et toute sa photographie.
Oui, absolument. Christine, c'est vraiment un cas et c'est une personne très attachante, je dois dire, que j'aime beaucoup et qui a quand même été une des grandes femmes photoreporteurs qui a été sur tous les fronts. Hein, et je veux dire que c'est très étonnant. Elle fait partie de cette génération de femmes, Catherine Leroy, Marie-Laure de Decker, Alexandra Boula, qui ont émergé d'un seul coup dans les années 90 et qui ont couvert les grands conflits mondiaux.
Bien sûr, on va en parler avec elle à nouveau à la fin de cette émission, des femmes que vous venez de citer. Vous lui aviez proposé une grande exposition à Christine Spengler.
Oui, bien sûr. Alors voilà, ça c'est une belle surprise. L'exposition de Christine Spengler, bien sûr, je savais que ça allait marcher, mais pas comme ça a été une des plus belles, une plus grande exposition, très grand public. Pourquoi ? Parce qu'elle était là tous les jours, Christine. Elle était là, elle commentait son exposition. Et le public adore ça.
Oui.
La photographe était dans son exposition.
Et dans le livre « La photographie française existe, je l'ai rencontrée », vous proposez d'elle deux photographies hein, qui correspondent à deux périodes de sa vie.
La période du photoreportage, c'est Phnom Penh, une photo très en noir et blanc, prise en plein midi, le bombardement de Phnom Penh, et puis le travail qu'elle a refait ensuite, quelques années plus tard, des photos, photomontage, à partir de cette photo en couleur.
Mmh.
Comme elle le dit elle-même, n'est-ce pas, elle a vécu un drame terrible, et donc pendant longtemps elle était en deuil, et puis un jour elle a réussi à s'en sortir, et donc la couleur est revenue à la fois dans ses vêtements, mais la couleur est revenue aussi dans son travail photographique.
Oui. Je lui ai demandé à Christine Spengler, comme je l'ai demandé aux autres photographes que j'ai rencontrés pendant l'exposition Face to Face, si les photographes aimaient être photographiés. Vous me dites que non, ils n'aiment pas trop, vous, Jean-Luc Monterosso ?
Non, vous savez, et les photographes femmes aiment encore moins être photographiées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont à la fois photographes, et donc, elles aiment bien être derrière l'appareil, comme tous les photographes. Mais en même temps, ce sont des femmes, il ne faut pas l'oublier.
Et alors ?
Il y a quand même une certaine coquetterie, malgré tout. Hein, oui. Il faut bien le reconnaître. Et Christine voulait absolument que M. Zhong la photographie. Elle dit Zhong, d'ailleurs, ça se prononce Chong, mais elle dit Zhong. C'est bien, c'est plus facile à dire.
Ah oui, c'est plus facile.
Et donc elle a fait la mise en scène elle-même. Mais Zhong ne voulait pas.
Oui, c'est
ça. Et donc, il y a eu un petit duel comme ça. Et c'est pour ça que sa photo, elle n'aime pas trop, quoi. Elle est pas en couleur, elle n'est pas exactement comme elle souhaitait faire la photo.
Et vous, aimez-vous être photographié, Jean-Luc Monterosso ?
Moi, je n'aime pas trop non plus, je veux dire.
Vous aussi, vous êtes pudique.
Mais je crois que, oui, c'est difficile. D'abord, on ne s'aime pas sur les photos. On s'aime 10 ans après. Ou 15 ans après.
Voilà.
Hein ?
Parce
là,
qu'on était juste
on se trouve
plus jeune.
Voilà, exactement. Mais sur le moment, on ne s'aime pas.
Et qui a fait de sa vie un chef-d'œuvre ? Philippe Catherine, bien sûr, avec ce titre « Mort à la poésie ».
Je fais de ma vie un chef-d'œuvre que l'on visite pour 100 francs tous les 2 ou 3 ans. Des insectes merveilleux sur des visages adolescents et absolument consentants. Je marcherai nu sur le pont neuf le 7 avril de 2009 en criant mort à la poésie, mort à la poésie. Je suis un homme d'heure en buvant des alcools blancs dans des endroits très déroutants. Jusqu'à Tunis, le 7 avril de 2010, en criant mort à la poésie, mort à la poésie, je suis un mort à la poésie.
Cet après-midi sur France Inter pour Regardez voir, nous sommes en compagnie de Jean-Luc Monterosso qui quitte la MEP, la Maison Européenne de la Photographie. Ça y est, elle est quittée ?
Oui, en fait, je quitte mes fonctions.
Voilà, vous quittez vos fonctions de directeur et de fondateur, on va dire. Non, fondateur, vous l'avez été.
Fondateur, je le reste, oui.
Voilà. Mais bien sûr, vous ne quittez pas le monde de la photographie, puisque, par exemple, à la rentrée, vous allez être le commissaire d'une exposition avec JR.
Oui, parce que JR a été un des premiers à exposer, on ne le sait pas, à la Maison Européenne de la Photographie, mais à l'époque, il a voulu être exposé sur les murs extérieurs de la Maison Européenne.
En quelle année ?
Oh, c'était il y a une dizaine d'années.
Et vous avez suivi son parcours ?
Bien sûr, j'ai suivi son parcours et j'ai créé comme ça un lien vraiment très très amical et très fort. Et c'est la raison pour laquelle il a accepté de faire cette grande exposition. Il va investir toute la maison en novembre prochain, faire cette grande exposition à la Maison Européenne de la Photographie.
Donc vous allez être
parce que
le
cette
commissaire...
maison, c'est un peu sa maison, c'est là qu'il a débuté.
Et c'est un peu la vôtre aussi.
Oui.
Ça va être difficile de laisser justement cette maison, enfin, pas complètement, hein, puisque là on le voit avec JR, mais à Simon Becker,
non,
le nouveau directeur.
Je crois que j'ai un bon successeur, vous savez. C'est un Anglais, un Anglo-Saxon. Et les Anglo-Saxons ne sont pas des gens qui veulent mettre bas tout ce qui a été fait. Ils partent de l'acquis et il a envie de faire autre chose. Et puis c'est bien. Vous savez, à un moment donné, il faut transmettre. J'ai l'âge pour transmettre. Mm-hmm. Et lui, on pourrait être mon fils. Hein. Donc voilà, il va donner un souffle nouveau à cette maison. Moi, je suis très heureux. Je suis très heureux. J'attends de voir ce qu'il va faire avec beaucoup d'impatience, beaucoup de curiosité. Et beaucoup de sympathie aussi.
Dans le livre qui parle de votre exposition qui a eu au printemps, La photographie française existe, je l'ai rencontré. Quand on l'a dans les mains, quand on le regarde, il est très beau. Est-ce que nous pouvons, en tant que public, avoir une vision de la photographie française aujourd'hui ?
Dans cette exposition, je présentais surtout l'âge d'or de la photographie française, c'est-à-dire les années 80. 90, 2000. D'ailleurs, c'est intéressant cette exposition pour moi, parce que voyez-vous, tous ces photographes, en fait, c'est des photographes qui avaient 30 ans, comme moi, quand j'ai débuté. C'est-à-dire, Depardon avait 30 ans, Bettina Reims, Salgado, tous ces gens avaient le même âge que moi. Et donc, je les ai rencontrés, puis je les ai accompagnés, je les ai aimés, bien entendu. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, je me suis rendu compte que les jeunes photographes, finalement, je les croisais. Mais j'avais du mal à les accompagner.
Oui.
Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, vous voyez, il faut transmettre.
Bien sûr.
Et il faut laisser peut-être à d'autres le soin de les accompagner, ces jeunes photographes.
Mais tous ceux que vous venez de citer, Depardon, Salgado, ils sont toujours là. Et ils font la photographie d'aujourd'hui,
bien
même
sûr.
S'ils sont d'une génération précédente.
Bien sûr. Mais c'était plus la jeune photographie.
Absolument.
Ce sont de grands classiques maintenant.
Alors, on va retrouver une photographe, encore une femme, que vous connaissez bien. Qui tourne le dos à son portrait. Pourquoi ? Elle s'appelle Françoise Huguier. Elle répond.
Parce que je me connais par cœur. Je me regarde dans la glace tous les matins. Donc je vois les rides arriver de plus en plus. Donc là, je vois que dans le portrait, bah, y en a. Bon, c'est vrai qu'on a du mal. Moi, j'ai toujours du mal à me voir en photo. Je suis pas la seule. Hein.
Comment s'est passée la séance de ce photographe, vous photographiant, avec ce projet qu'il a depuis 2016 de photographier les très grands photographes ?
Merci pour les très grands photographes. Alors, je vous explique. Donc, je les ai rencontrés grâce à Jean-Luc Monterosso. Ils m'ont demandé de venir. Alors, ils avaient loué un appartement dans le 17e qui ressemblait, avec moulure et tout le bazar, qui ressemblait à l'appartement de mon beau-père. Avenue Raymond Poincaré. Eux, ils étaient dans le 17e. Donc déjà, je suis arrivé dans un endroit que je connaissais. Donc, dans une partie du salon, il y avait un studio avec un fond noir. Je remarque qu'on aime bien le noir. Hein. On a beaucoup parlé avec M. Zong. Et après, on a fait les photos. Ça s'est hyper bien passé. Moi, j'étais très bluffé par tous les appareils qu'il avait. Je pense qu'il était un peu intimidé, quand même.
Oui, on peut se demander si entre photographes qui se photographient, il y a une association ou au contraire, il y a comme un petit duel ou un combat.
Non, il y a une association. Avec lui, je connais moins bien, mais moi, j'ai des copains photographes qui m'ont photographié et j'ai jamais été en duel, pas du tout. De toute façon, c'est un truc en commun, hein, parce qu'il propose, moi je propose et on fait quelque chose. Là, on m'a pas tellement proposé, bon... Je me suis un peu laissé faire, je dois dire, parce que je me suis dit, après tout, pourquoi pas.
Françoise, est-ce que dans cette photographie, vous voyez quelque chose de vous que vous n'aviez jamais vu ?
Non. Non, j'ai les yeux, je reconnais mes yeux. Je reconnais mes yeux curieux, inquisiteurs, je les reconnais. Moi, je me rends pas compte que j'ai les yeux comme ça, mais souvent les gens me le disent. Ouais. J'ai mis un col roulé pour cacher un peu le cou, parce qu'à un certain âge, il faut cacher le cou.
Oui, je voulais vous parler du col roulé, mais si c'est pour cette raison-là, on la connaît. Enfin, beaucoup de femmes la connaissent,
mais
hein,
oui,
cette
mais
raison.
Moi, je le dis. Il y a beaucoup de femmes qui le disent pas, moi, je le dis.
Vous avez raison, d'ailleurs. Il y a peu de femmes dans l'exposition.
Oui. Il y a peu de femmes dans l'exposition, ben comme d'habitude.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a peu de femmes photographes ?
Il y a beaucoup de femmes photographes, parce que je vois des écoles maintenant, c'est la majorité qui sortent. Mais notre génération, il y en a assez peu. Parce qu'il y en a beaucoup, moi, de mes amis qui ont arrêté, enfants. Donc partir et faire les voyages comme j'ai fait, c'était... Puis souvent, il y a une génération aussi, les maris ne voulaient pas garder les enfants, même si la femme partait. Maintenant, ça a beaucoup changé, donc ça va changer.
Ça va changer, dit Françoise Huguier. Qu'en pensez-vous, Jean-Luc
Monterosso ? Et ça change,
bien sûr.
Oui. Dans les écoles d'art aujourd'hui, il y a la majorité de femmes à l'École nationale de la photographie également.
Mais est-ce qu'elles peuvent poursuivre ?
Bien sûr, je pense qu'elles peuvent poursuivre. Le seul problème, c'est qu'effectivement, dans la photographie, les débouchés sont de plus en plus difficiles. Mais souvent, les photographes, maintenant, les jeunes photographes ont un second métier.
Avez-vous veillé justement, comme directeur de la MEP, à la représentation des femmes dans les expositions sur une année ou sur deux années ?
J'ai essayé de le faire, bien sûr, parce que, évidemment, ça me paraît important, mais il faut tenir compte de l'histoire. Comme le dit très justement Françoise Huguier, en fait, sa génération, qui est ma génération, il y avait très peu de femmes photographes. Elle est une représentante formidable. En plus, c'est quelqu'un qui s'est battu. Elle a créé le festival de Bamako. Elle est très engagée. Et c'est quelqu'un de, vraiment que j'estime énormément. Mais c'est vrai qu'il y en avait très peu. Mm-hmm. Alors qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et je pense qu'effectivement, à l'avenir, il y aura beaucoup plus de femmes photographes exposées à la MEP qu'il n'y en a eu dans le passé.
Je vous propose, Jean-Luc Monterosso, encore un portrait. C'est une photographe qui se regarde, elle a un sourire doux et bienveillant. Elle s'appelle Sabine Weiss. Et je lui demande ce qu'elle en pense de son portrait.
Ah, je suis plutôt contente, parce que je m'attendais au pire. Je pense que celle qui est dans le livre, je crois qu'il y a un livre, enfin, je sais qu'il y a une photo où je mange une assiette. Alors, j'ai pas l'habitude, donc ça me... J'ai l'habitude de m'en servir des assiettes, mais pas de les manger.
Comment s'est passée cette séance ? Vous vous en souvenez ?
Oui, oh, c'était très chic. C'était dans un immense appartement qu'ils avaient loué. Il y avait beaucoup de monde. Ils étaient beaux, nombreux pour faire une photo. Ils tiraient n'importe comment. Et c'est, oui, très vite, très n'importe comment, avec des flashs, avec d'autres appareils.
Pour vous, c'était énorme.
Ah oui, parce que moi je suis plutôt simple, j'aime les choses simples, oui, j'aime profiter d'une lumière existante, enfin quand elle est là, et faire ce que je peux avec. Mais les flashs, évidemment qu'on a tous travaillé avec des flashs dans certaines circonstances, mais pour les portraits, bon, moi je trouve que cette photo-là, je suis plutôt bien, je suis un peu gay, c'est bien.
Comment êtes-vous vêtue, juste pour que les auditeurs vous voient ?
Ah ben moi, c'est tricot noir, hein, d'habitude. Oui, aujourd'hui, j'ai mis un petit chemisier blanc et noir, mais il y a quand même le tricot noir par-dessus. Moi, j'aime les choses un peu simples.
Vous avez un joli collier de perles ?
Ah oui, il est très joli. C'est dommage que ça ne soit pas en couleur, parce qu'il est un vert très joli. Ma fille qui me l'avait donné.
Des bijoux, bracelets, montres.
Ah, le bracelet, c'est celui-là. C'est ce bracelet que des amis m'ont donné, il doit y avoir 45 ans à peu près, et que je porte tous les jours. C'est mon bracelet. Je ne porte jamais d'autre.
En tout cas, vous avez un joli demi-sourire.
Oui, c'est pas mal. C'est pas mal.
Vous, comme photographe, vous aimez être prise en photo de cette façon, c'est-à-dire que quelqu'un fasse un portrait de vous ?
Non, pas du tout, mais ça ne me gêne pas non plus, c'est pas non plus désagréable, je m'en fiche.
J'aime beaucoup ce « je m'en fiche ».
Oui, absolument.
Quand on entend les mots hein, et les voix de toutes ces femmes photographes, là, avec vous, Jean-Luc Monterosso, on reconnaît, enfin vous qui les connaissez bien, on entend, on voit leur personnalité.
Oui, on le voit aussi dans son portrait, Sabine Weiss, c'est une adorable, charmante femme. On a fêté ses 90 ans à la Maison Européenne de la Photographie, il y a quelques années. Et je dois dire que c'est une personnalité attachante, souriante. Elle est suisse, hein, d'origine.
Oui, c'est vrai.
Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui incarne la tradition, la belle tradition humaniste, hein, une des dernières grandes humanistes dans la photographie.
I keep it moving, I don't read gossip. J'ai dû aller votre année, vous étiez pris dans le passé. Est-ce que les perdants peuvent me laisser gagner ma vie tranquille? Pourquoi vous disiez des mensonges sur un joueur de franchise? Tous vos héros gardent mon numéro sur Speeda. Hello, téléphone au nouveau qui part. Mon gars, j'ai pas mille pieds si t'as pas mille piastres. It ain't no G-Pass pour un cheap pass sur la métropolitaine. Un pied dans le tapis rapide, une main sur le bras de vitesse. Deux doigts pour la politesse. Yes. On roule à haute vitesse pour get le 56K. Si tu sais pas c'est quoi, c'est pas c'est le money dance. On a déjoué la police jusqu'au métropolis. Je vous ai servi LLA pour oublier vos problèmes. Un peu de poudre aux yeux avant quelque chose de solide. Witness the second coming de la sérotonine. Stunting, braque les caméras dessus. Tu croyais que j'allais jamais revenir, t'en es jamais revenu. De la banquette arrière du taxi jusqu'au siège avant du Boeing. Pas besoin de savoir se conduire, where I'm going. I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Roule le papier contre le papier, jamais les mêmes. We eat again, paid again, faded. What I call self-made, self-medicated. Aperçu au guichet, disparu dans un pays chaud. Beach chair, pichet, by the seashore, sure. Mais qu'est-ce que j'étais supposé faire en vacances? Tout ce que j'sais faire, c'est faire des records, pis des faire des records. Oh my god. Est-ce que les backpackers sont encore nostalgiques? Guess où Jean-Sébastien back avec ses bons vieux classiques? Avec ce genre de flow que mes flows paient chers pour. But I keep the game on lock, and that's childproof. I'm back on my bullshit, entouré de des axes chaque jour et de jour J. On s'apprête à rouler sur Paris, smell like new cheese. Ils pensent tout ce que je suis ricain quand je leur parle de où je vis. On va prendre notre équipage, réduit sur Air France. Aucun joker, un quart de paire d'os. Ferme le hublot, la nostalgie au perdant. Mais on n'a pas de classe, mis à part la première classe. I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Roule le papier contre le papier, jamais les mêmes. We eat again, paid again, faded. What I call self-made, self-medicated.
K du rappeur québécois Loud.
Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter.
Bienvenue dans Regardez voir. Si vous arrivez, c'est dommage, mais surtout sachez que l'émission existera en podcast dans quelques instants. Je reçois cet après-midi avec grand plaisir Jean-Luc Monterosso, qui a été donc à la direction de la MEP pendant très longtemps, MEP, Maison Européenne de la Photographie, à Paris. Jean-Luc Monterosso, je vais reprendre une question qu'un journaliste de la Tribune des Fossés vous a posée à l'ouverture de la MEP en 1996. Écoutez bien. Avec l'essor des nouvelles technologies, Jean-Luc Monterosso, vous croyez encore à l'avenir de la photo ?
Oui, bien sûr.
Posé en 2018 ?
En 2018, plus encore, parce que finalement, c'est vrai qu'on est envahi d'images, encore plus qu'en 1996, mais la photographie existe, elle existe bel et bien. Hein. Et je dois dire qu'elle continue à être présenté à la fois dans les musées, mais un peu partout aujourd'hui. Et donc, oui, la photographie existe. Ce qui est merveilleux aujourd'hui, ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que les barrières tombent. C'est que les jeunes ont à leur disposition des moyens extraordinaires. D'abord, la photographie ne coûte pas cher, puisqu'on a la photographie électronique. Et puis, également, on peut la diffuser facilement grâce aux réseaux sociaux. Donc, ils peuvent utiliser la photographie, la vidéo, ils font des installations. Il y a une grande liberté de création. Ça, c'est merveilleux.
Jean-Luc Monterosso, collectionnez-vous la photographie à titre personnel ?
Non, parce que vous savez, quand on a eu entre les mains les plus belles photos, oui. Les photos d'Irving Penn, d'Avedon, de Cartier-Bresson, je crois qu'on a été suffisamment gâtés. Et puis quand on est chez soi, on a envie de peut-être de voir un peu autre chose. Donc je collectionne quelque chose qui est peut-être un petit peu ringard, mais je collectionne les timbres.
Vous avez une belle collection de timbres ?
J'essaie d'avoir une belle collection. Mais vous savez, les timbres, c'est une petite gravure finalement. Mais et oui. Ça prend pas de place surtout.
Ça, c'est intéressant, oui. Plutôt qu'un très grand
Parce qu'aujourd'hui, avec portrait. Les grands formats, je peux vous dire que le conservateur de la collection s'arrache les cheveux parce qu'effectivement, il faut
Les stocker. Avant de vous quitter, Jean-Luc Monterosso, je voudrais vous proposer une dernière fois les mots de la photographe Christine Spengler. En off, tout à l'heure, on parlait de la présence des femmes. On se disait qu'il y avait peu de femmes photographes présentes dans l'expo, mais qu'en même temps, cette expo était présentée comme des portraits de photographes consacrés. Alors, qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes femmes photographes. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce qu'il en manque, évidemment ?
Alors, les jeunes femmes photographes méritent une autre expo, une nouvelle expo, mais évidemment, moi, ce qui me rend triste, mais M. Zhong, évidemment, ne pouvait pas les immortaliser, c'est que les autres photographes femmes consacrées de ma génération, parce que nous étions quatre, et je suis la seule vivante encore. C'est-à-dire, la pionnière a été notre amie Catherine Leroy, mythique, qui a escaladé la colline 661 au Vietnam, qui était d'un courage inimaginable. Ma seconde amie, bien que nous étions rivales sur le terrain, ça c'est autre chose, mais nous avions le plus grand respect, seulement elle pouvait me comprendre, et moi, elle, aucun homme. Nous, on se comprenait. Alors, il manque, évidemment, le portrait de Françoise de Mulder, qui, quand même, a été la première femme au monde à obtenir le World Press. Et après, une autre Française, plus jeune que nous, Alexandra Boula, qui avait pris la relève et qui est morte d'une façon tragique aussi. Donc, moi, chaque fois que l'on me rend hommage, je ne peux m'empêcher de rendre hommage à mes consœurs disparues.
À ces trois femmes que vous venez de citer.
Et les autres, et celles d'avant. Toutes celles qui sont mortes avant. Dont par exemple, évidemment, Gerda Taro, écrasée à Brunete par un tank, d'une façon tragique. Donc toutes les autres.
Et toutes les femmes aussi plus jeunes, là, que, comme Camille Lepage, exactement. Toutes celles qui ont pris des risques et qui sont mortes pendant leur travail.
Exactement, à l'âge de 26 ans. Et parce que, Brigitte, même si vous ne me le demandez pas, je me permets de le dire, parce que les gens ne le comprennent pas. On me dit, comment ça se fait qu'il y a tant de femmes aujourd'hui correspondantes de guerre à la télé ? Et si peu de photographe, c'est que c'est deux métiers différents. La femme qui travaille avec la télé est moins exposée au danger car elle travaille en équipe. Elle n'est jamais seule. Elle est reliée comme par un cordon ombilical pour être attrapée, prise en otage, beaucoup plus difficile que si, comme nous, elle marche seule dans la jungle. La jungle est une façon de parler. Et surtout moi, j'ai toujours fait des photos différentes des hommes et des autres femmes. Pourquoi ? Parce que j'étais très solitaire et courageuse, n'avais pas peur du danger, je détestais faire la même chose que les autres. Donc quand je voyais que les 50 partaient à droite, toute seule, même en pleine guerre, je prenais l'autre chemin. J'ai toujours travaillé seule et dans le danger. Et c'est pour ça que j'ai fait ces photos uniques. Donc c'est un métier beaucoup plus dangereux que télévision. Parce que si on est attrapé, ou qu'on disparaît, ou qu'on tombe dans un ravin, personne n'est là pour vous aider. Voilà.
Christine Spengler, Jean-Luc Monterosso, la Maison européenne de la photographie n'a jamais été vraiment le lieu du photojournalisme. Christine Spengler a évoqué des femmes photojournalistes que vous aviez d'ailleurs évoquées un peu plus tôt. Mais on ne peut pas dire que vous avez choisi de mettre en avant tous les photojournalistes français ou du monde.
Non, parce qu'il y a un festival qui existe, le Festival de Perpignan. Mais je voudrais ajouter à ce qui a été dit, oui, qu'aujourd'hui aussi il y a des jeunes photographes qui ont payé de leur vie leur engagement. Je pense à Leïla Alaoui,
bien
que nous
sûr
avons exposé, et qui est tombée sous les balles d'un terroriste à Ouagadougou, alors qu'elle effectuait un reportage. Voilà, et je voudrais aussi qu'on n'oublie pas cette jeune femme rayonnante.
Alors, on va devoir se quitter, Jean-Luc Monterosso.
Avec regret.
Comment on va faire? Alors, où est-ce qu'on va vous retrouver? À la MEP, à la rentrée comme commissaire, avec JR. Dans votre région, où vous allez faire un festival, une résidence, parlez-moi de ce projet.
Voilà, j'ai un projet en Champagne.
Ah voilà, en
Champagne. Un petit village, au milieu de nulle part, mais où il ne se passe pas grand-chose. Il y a juste un musée du fromage. Et moi, je suis allergique au fromage.
Non.
Mais voilà, mais donc je vais créer un centre culturel. Un petit centre culturel, une résidence d'artiste, faire des workshops. Et je pense que, avec les années, ce centre sera de plus en plus connu, je l'espère.
Mais lié à la photographie ?
Lié à la photographie et à la musique. J'ai la chance d'avoir trois belles églises, à un kilomètre l'une de l'autre pratiquement, et je vais créer un festival des trois églises. Mais nous sommes, je ne suis pas tout seul, hein. Il y a une petite communauté comme ça qui participe à cette restructuration de cette vieille ferme pour en faire vraiment un lieu de création.
Et en musique et en...
En musique, en photo.
Art, en photo.
Et la photo, la musique fonctionnent très bien ensemble.
Mais dites-moi, vous qui ne vouliez plus être sous le poids des demandes, des gens qui vous disent « j'aimerais bien être exposé à la Maison européenne de la photographie, est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce que je peux vous montrer mon livre, mes photos ?» Vous allez donc continuer à être demandé, désiré?
Non, là, je n'aurai pas quand même la Maison européenne, les murs de la Maison européenne pour exposer. Donc, ce seront des ateliers et de création. Donc, vous voyez, ce sera quand même très modeste. J'ai simplement envie de faire, au fond, de mener une action de proximité. C'est une région où je pense qu'on peut faire des choses intéressantes culturellement. Et je crois que c'est le moment.
Donc on viendra vous voir là-bas.
Ben j'espère
ne
que je vous recevrai.
Ne pensez pas nous perdre comme ça si facilement. Merci beaucoup en tout cas.
Merci Brigitte.
Et bonne route à vous. Merci.
Merci.
Notez ces deux livres signés Jean-Luc Monterosso. La photographie française existe, je l'ai rencontré aux éditions Xavier Barral. Mes années MEP, chronique 1997-2017, édité par la MEP et Contrasto. Et puisqu'on a écouté Sabine Weiss, allez voir l'exposition au Centre Pompidou jusqu'au 15 octobre avec le catalogue, aussi édité chez Xavier Barral, Les villes, la rue et l'autre. Pour cette dernière émission, je voudrais remercier tous les photographes ou les acteurs du monde de la photographie qui ont participé à cette aventure de l'été. Et vous, merci à vous d'être là aussi de l'autre côté du poste. Bien sûr, un grand merci à l'équipe, Marie-Hélène Fauquet qui réalise « Regardez voir », Perrine Malinge, attachée et très attachée de production, Thierry Dupin pour la programmation musicale. Merci aux techniciens de France Inter aujourd'hui, Pierre Faucillon. Cette émission est sur franceinter.fr à la page Regardez voir. Vous pouvez la podcaster, la partager, la commenter via les réseaux sociaux. Samedi prochain, vous retrouvez à 14h Denis Chessou, CO2 Mon Amour, et le dimanche à 14h, Zoé Varier. Et juste après les informations, vous allez retrouver la série Jacques Higelin, dernier épisode bien sûr de la série des médias francophones publics. Belle fin d'après-midi à vous.